On l'a retrouvé, votre doudou.
Quoi, déjà?
Il s'agirait de grandir.
C'est inadmissible.
C'est terrible.
Voilà, c'est inadmissible, il y a des choses qui ne se font pas.
This is not a method. This is a provocation.
Moi, je vous dis ça, c'est en toute amitié.
Bienvenue dans S'agirait de grandir, le podcast qui n'a pas de pitié pour les doudous, les rois de la technique. À chaque épisode, nous prenons une statue cinématographique de votre prime jeunesse ou de la nôtre et on se pose la question, est-ce qu'on la déboulonne ou est-ce qu'on la garde? Nous sommes Marvin Montes et Martin Gamera et nous faisons ça pour votre bien. On n'a pas fait ça depuis le mois de mai 2023, depuis Indiana Jones. Comment ça va, Martin, depuis presque un an? Allez, voilà, arrondissons à l'angle supérieur.
Ouais, ça va, merci. Écoute, je trouve ça bien, comme on se disait précédemment, je trouve ça bien d'envisager le rythme annuel pour les podcasts.
Oui.
Parce que ça permet d'en faire plein et ça enlève une certaine pression.
Oui, et puis de toute façon, il fallait. On a choisi délibérément de vous laisser digérer à chaque fois. Genre, c'est dit Indiana Jones, c'est un peu fort. Donc après le film du jour, nous attendez pas avant deux ans, hein, je pense. Voilà quoi.
On sait pas, on va savoir.
Donc voilà. Est-ce qu'on parle d'emblée du film du jour ou est-ce que t'as quelque chose de spécial à raconter? Pas de fan Indiana Jones énervé dans ton jardin, rien de particulier.
Écoute, les fans d'Indiana Jones, ça va, ça s'est bien passé. Parce qu'ils ont assez peu de figurines chez eux en général.
Plutôt, une seule.
C'est
en fait.
Pas, voilà, une ouais. seule. C'est pas trop une licence à figurines. Et puis il y a eu des débats intéressants sur le dernier Indiana Jones, là, le 5, le 6, le 7, je sais plus, le 4. Enfin, j'ai arrêté
pas, mais en
compter.
Tout cas, il y en a eu un qui a eu le temps de sortir depuis notre dernier épisode. C'est ça l'info.
C'est vu où Indiana Jones a 80 ans et.
Ouais, mais ça fait déjà 3 films. C'est bon, mais.
Il saute de rayonnage en rayonnage où il fait des cascades assez incroyables.
C'est ça.
Bref. Je sais pas, et toi? T'as pas été embêté là par des fans de Top Gun ou des trucs comme ça?
Non, mais en fait, les fans de Top Gun, moi j'ai remarqué qu'il y en avait peut-être pas. En fait, en faisant ça, je me suis dit peut-être que finalement il y en a pas. Ça n'existe pas. Par contre, des fans de Scarface,
alors,
il y en a.
Comment tu t'appelles? Comment se llama?
Antonio Montana. Et vous? Comment vous vous appelez?
Où as-tu appris à parler notre langue, Tony?
Il étudiait à l'école. Mon père, il était américain unique. Il est comme toi, tu vois. Il était Yankee. Et puis, j'ai beaucoup été au film, tu sais. J'étudie, j'ai bien regardé l'acteur, Humphrey Bogart, James Caan. Eux, c'est eux qui m'apprennent à parler. J'adore ces gars. Je pense toujours, un jour, je vais venir ici à l'État-Uni.
Et c'est bien sûr de Scarface qu'on va parler aujourd'hui. Et donc Martin va nous rappeler ce que c'est que ce film formidablement. Est-ce qu'on fait comme tous les podcasteurs du monde, c'est-à-dire on va vous expliquer Scarface parce qu'on sait que vous l'avez pas compris.
Évidemment.
Évidemment.
On est là pour ça.
C'est ce qu'on va faire.
Mais avant ça, on va vous lire la fiche Wikipédia, comme tous les podcasts. Profitez-en, c'est un changement d'époque. Hein. Là, on lit les fiches Wikipédia et bientôt, on va lire les résumés de ChatGPT. Donc, quand même, nous, on est attaché à l'artisanat, quoi.
Oui, bien sûr.
Donc, Scarface ou le balafré au Québec est un film de gangster américain. Donc, un film de gangster, mais américain, et pas un film de gangster qui sont américains, réalisé par Brian De Palma, sorti en 1983. Donc je pense que vous savez à peu près qui est Brian De Palma si vous écoutez cette émission. C'est un film scénarisé par Oliver Stone avant qu'il soit fan de Poutine.
Il était plutôt fan d'héroïne à ce moment-là.
Ouais,
non, vraiment, il était complètement sous héroïne.
Ah, il était complètement fan d'héroïne et c'est un petit fil rouge dans Scarface quand même. Et ouais, ils étaient vraiment fans d'héroïne. Et c'est un remake du film du même nom de Ward Hawks, sorti en 1932, hein, je suis toujours sur Wikipédia.
Oui, tout le monde le sait, ça, voyons.
Voilà, et tout le monde le sait. Et alors que ce dernier traitait de la mafia américaine et s'inspirait de la vie d'Al Capone, le scénario est ici transposé à travers l'histoire d'un petit malfrat cubain au nom de Tony Montana, interprété par Jean-Marie Bigard. Non, c'est Pacino.
Bien sûr.
Sérieux, je te pose la question.
Merde, c'est le boss qui se
fait. Attends, merde, le boss.
Voilà. Je pense que vous savez déjà beaucoup de choses, enfin sauf si vous êtes jeune et que vous nous écoutez, dans ce cas je serais vraiment ravi qu'on ait une audience de jeunes gens qui n'ont jamais vu Scarface ou qui savent pas ce que c'est, mais vous savez probablement globalement que c'est un film de Brian De Palma sorti en 1983 qui a une forte un fort ADN 80s. Alors est-ce que pour autant ça en fait un, est-ce que ça grève le film ou pas, on va en parler juste après. Mais bande son de Giorgio Moroder, esthétique, bande son incroyable de Giorgio Moroder, clairement. Ouais. Comme beaucoup de bandes son de Giorgio Moroder. J'ai une anecdote sur Giorgio Moroder. Je suis allé le voir en concert un jour et c'était genre un des pires concerts de ma vie parce que en fait il était sur scène avec son iMac et il faisait ah attendez je cherche le fichier.
C'est fou ça.
Non, attendez, c'est pas celui-là. Ah là, clac.
Incroyable.
Et c'était ça le concert de Giorgio Moroder. On était un petit peu surpris.
Ouais, bah écoute.
Et voilà. Et à côté de Al Pacino, on retrouve Stephen Bauer qu'on a revu quelques années plus tard dans Breaking Bad. Michel Pfeiffer.
C'est à peu près la seule fois où on l'a revu.
Ouais, et dans le même rôle à peu près, d'ailleurs.
Mais je sais pas si t'as vu des bonus autour de Scarface. Stephen Bauer, ça a l'air d'être un mec un peu bizarre.
Si, oui. Il y a
une conf qu'ils font tous ensemble, là. Il y a une conférence, je sais plus, c'était pour la ressortie du film au moment du remaster et tout. Et il y a Stephen Bauer au bout, tout à gauche de la table. Et quand il parle, les gens le regardent pas. Tu sais, genre, fais pas gaffe à lui. Et il dit toujours des trucs super bizarres, en fait, par rapport aux autres. Enfin, il est vraiment étrange comme mec. C'est vrai
qu'on l'a pas beaucoup revu. Et je pense que si ça avait pas été pour nostalgie, de la nostalgie pour Scarface, je suis pas sûr qu'on l'aurait forcément revu dans Breaking Bad ou.
Non, c'est clair.
Et Michel Pfeiffer est dans le casting, Marie-Elisabeth Mastrantonio. Et voilà. Et c'est. Déjà, je sais pas. Une fois de plus, on va pas représenter tout Scarface parce que vous l'avez vu. Mais si tu devais résumer. Si tu devais prendre un angle spécifique dans Scarface et ce qui t'intéresse le plus dedans, toi, tu parlerais de quoi ?
Tu sais bien.
Non, mais avant de parler des doudous.
Je vais y revenir après sur le fait que ce soit... Mais déjà, est-ce que toi, c'est un doudou ou quoi ? Tu vois ?
Ah, non, c'est... Alors non, c'est marrant, ouais, c'est vrai. Non, c'est pas un doudou. C'est pas un doudou parce que... Déjà, je trouve ça compliqué d'avoir un film comme Scarface comme doudou, quand même.
Alors, je pense qu'il y a des gens pour qui ça existe, tu vois.
Oui. Mais je sais pas si doudou c'est le bon mot, tu vois. Il faudrait inventer un mot pour genre doudou phase 2. En fait, c'est le doudou. Non, mais quand on est ado, quoi.
C'est quand même
compliqué d'avoir Scarface comme film d'enfance préféré. Quoi.
Non, je suis pas sûr, mais je suis pas complètement sûr que ça existe pas. Mais
autant Alien et Robocop, même si c'est violent, c'est jouable, tu vois, de se dire. Même si Robocop c'est sale, c'est quand même un Robocop. Tu vois, c'est quand même un robot qui tire sur d'autres robots ou des gens. Donc tu peux éventuellement faire un petit doudou, un truc un peu transitionnel. Scarface c'est quand même compliqué. Ouais, du moins c'est pour la transition suivante, quoi. C'est pas la transition primaire-collège, c'est plutôt la transition collège-lycée, quoi.
Ouais, mais moi, je me souviens, alors j'irais pas te dire non plus que c'est un doudou, mais tu sais, quand t'es, on va dire, fin de l'enfance, début de l'adolescence, il y a quand même un... Tu sais, le frisson de l'interdit, un peu. Genre, tu vas voir Scarface, c'est incroyable, et puis la scène de la tronçonneuse et tout ça, enfin... Il y a beaucoup de choses comme ça qui font que c'est un film... T'es toujours... En tout cas, moi, je me souviens que j'étais très curieux, quoi.
Je suis très
curieux de voir ce que c'était. Et puis en plus de ça, si t'as un petit peu d'affinité avec la culture hip-hop, évidemment, c'est une référence telle enfin, je veux dire qu'elle est citée tout le temps, donc c'est presque un rite initiatique, tu sais, le truc obligatoire de voir Scarface. Et bon, bah voilà, tu te retrouves devant un film qui est finalement pas si extrême que oui. La manière dont on te l'a vendu, en tout cas, quoi.
Effectivement, bah alors c'est marrant parce que principalement la scène de la tronçonneuse, effectivement, j'en gardais un souvenir assez anxiogène de quand je l'avais découvert. Et parce que pour le coup, j'avais pas revu Scarface, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas revu. Je l'avais vu genre, j'avais découvert au lycée, j'avais revu dans ma vingtaine et j'avais pas revu depuis, quoi.
Ouais.
Et effectivement, la scène de la tronçonneuse, elle est beaucoup plus forte dans l'imaginaire que ce qu'elle est graphique, en fait.
Ouais, que ce qu'elle est graphiquement. Bah, au final, elle est un peu, on va dire, surréaliste, vulgaire, comme le film l'est, quoi. Donc, ouais. Donc voilà, mais en tout cas, l'angle pour définir un peu Scarface, je sais pas, c'est un peu compliqué, moi, d'autant plus qu'on en parle comme d'un remake. Alors ça, par contre, c'est quand même quelque chose d'assez rigolo, hein, parce que oui, c'est un remake, c'est un film qui porte le même titre, quoi. Parce qu'on parle d'une version de War Dogs qui traitait, sans trop le dire, d'Al Capone, à un film qui est finalement quand même assez actuel par rapport à la période, à sa période de sortie, avec évidemment l'exode de Marielle, tout ça, la crise cubaine. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que on attribue souvent ça à Oliver Stone, et c'est vrai que en regardant un petit peu plus, surtout en écoutant Al Pacino parler, on se rend compte que c'est pas du tout une idée d'Oliver Stone. En fait, c'est Sidney Lumet qui était le premier réal du film, qui avait décidé de transposer ça sur la crise de Cuba, quoi.
Oui. Oui, parce qu'il faut préciser que Brian De Palma n'est pas à l'origine du projet et du film, quoi.
Non, pas du tout. Non, bah c'était Sidney Lumet et Oliver Stone, en fait, hein, qui voulaient produire ce film-là, avec Al Pacino aussi, qui est, bah, je crois, qui est à la production depuis quasiment le début, avec Martin Bregman, je crois. Mais c'est pas du tout, Brian De Palma qui est pressenti. D'ailleurs, c'est marrant de penser que Sidney Lumet, qui avait déjà tourné avec Al Pacino et qui avait fait ce genre de truc avant, ça aurait été quelqu'un qui aurait pu fitter totalement, hein, pour le coup. Je veux dire, il n'y avait pas de scandale à ce que ça soit lui, quoi. Mais au final, je pense que l'apport de Brian De Palma, bah, c'est toute l'approche esthétique du film, en fait. Enfin, je veux dire, c'est complètement cohérent avec ce qu'il fait, c'est complètement cohérent avec ce qu'il fera après, quoi. Donc je pense que, je sais pas si le film pourrait exister sans cette espèce de patine, alors tout début des années 80 finalement, parce qu'il sort quand même en 83, donc c'est tôt, hein. Mais je sais pas si le film pourrait exister et aurait eu cette espèce d'aura qu'il a toujours, hein, auprès de plein de gens, notamment dans la culture hip-hop et tout, sans avoir cette espèce de vulgarité esthétique qu'il a, quoi. Parce qu'il est vraiment, il est plus ancré dans son époque que l'époque elle-même, quoi. C'est incroyable.
Alors c'est marrant que tu parles de vulgarité esthétique, parce qu'effectivement, c'est ce qui revient souvent quand on parle de Scarface. Enfin, c'est vrai que c'est un film qui est hyper vulgaire, mais c'est un film, j'ai envie de dire, c'est plutôt un film qui traite de la vulgarité qu'un film vulgaire lui-même, quoi.
C'est pas péjoratif, en plus, ce que je veux dire. Hein. Tu vois, moi, je pense que la vulgarité du film, elle est un peu flamboyante, quoi, à mon sens, tu vois.
Mais du coup, de toute façon, on le voit bien, enfin, je veux dire, par toutes les scènes, comment sont filmés les bureaux où ils sont, enfin, sa maison, ses bureaux, l'arrière-plan, enfin, tu vois, on comprend quand même le message. Enfin, nous, on le comprend, je sais pas si tout le monde l'a compris, du coup.
Ah, bah, on va en parler.
Mais le fait d'avoir des palmiers sur un mur en arrière-plan, ça veut tout dire, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et ça, effectivement, je pense qu'il y a eu certaines incompréhensions autour de ça, mais pas de celles qu'on imagine.
Parlons-en de ces incompréhensions, sinon. Hein.
Parle des incompréhensions. Mais déjà, avant de parler des incompréhensions, est-ce que toi, c'est un film que tu aimes ?
Ah, moi, ouais, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup Scarface, ouais. Ouais. Vraiment au premier degré, tu vois. Parce que moi, je l'ai compris, tu vois. Les autres l'ont pas compris. Non, mais moi, c'est un film que j'aime énormément. Dans tout ce qu'il raconte, et surtout dans la manière dont il le raconte, parce que moi, voilà, on va en reparler après, mais je suis absolument pas d'accord avec. Avec cette idée reçue qui voudrait que les gens n'aient pas totalement compris le propos et qu'ils fassent de Tony Montana une icône alors qu'elle doit pas l'être. Je pense que justement c'est pas du tout le propos du film, c'est que c'est une icône, en fait, hein. Je veux juste dire qu'on peut justifier son statut d'icône, je pense, en tout cas l'interprétation que certaines personnes puissent en avoir, elle me semble justifiée.
je pense, tu vois.
Alors, tu fais référence directement à la place de Tony Montana dans la culture hip-hop ?
Ouais, ouais, voilà, je pense que c'est à ça que je fais référence, et à la manière dont elle est perçue aussi par les gens qui traitent le film aujourd'hui, avec un recul qu'ils pensent avoir, et je pense que du coup, bah, qui n'ont pas, en fait, tu vois. Parce que si on rentre directement dans le vif du sujet, c'est vrai que le grand débat général autour de Scarface, c'est qu'il rejoue un petit peu la question qu'on se pose à chaque épisode de ce podcast de toute façon, tu vois, c'est-à-dire, est-ce que vraiment ces icônes-là, tu vois, on doit les considérer comme essentielles, ou est-ce qu'on n'aurait pas compris le message ou quelque chose comme ça, tu vois. Et moi, je sais que le point de vue général, c'est de dire que bon bah vous avez pas compris le film parce que Tony Montana vous l'érigez finalement en héros, en modèle de réussite, de flamboyance, de ce que tu veux, alors que c'est juste un con et que du coup vous êtes à côté de la plaque, quoi. Et ça, je trouve que c'est une vision super bizarre, en fait, du film, tu vois. J'ai toujours considéré que c'était une vision un petit peu de, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un truc de petit blanc, en fait, tu vois.
Ouais.
Vraiment. Ouais. Tu vois, c'est un truc de petit blanc privilégié, quasi colonialiste à mon sens, hein, vraiment, tu vois. Je veux dire, dans le sens où, oui, mais vous avez pas compris le film, c'est un gangster, et vous êtes trop con, vous trouvez que c'est cool, et bang bang, les voitures, les flingues, la culture hip-hop, c'est pour les trépanés, ce genre de choses. Alors qu'en fait, c'est pas ça, le film, pour moi, tu vois, c'est pas du tout ça. Je pense que Oliver Stone ou Brian De Palma sont évidemment parfaitement conscients de ce que fait le personnage, de où va le personnage, mais ils savent aussi pourquoi il l'érige en héros, et pourquoi c'est une icône, en fait, et pourquoi il n'a pas le choix que de l'être.
Ouais, bah justement, en fait, c'est ce qui est intéressant. Enfin, je parlais de Oliver Stone pré-Poutine tout à l'heure, c'est important, en fait, c'est parce que c'est que c'était au-delà de sa période cocaïne, ça restait l'intro du film, tout le début du film est quand même à une dimension politique folle, quoi.
Bien sûr.
Ne serait-ce que le générique avec les images d'archives et tout, et jusqu'à la fin de tout ce qui se passe dans le camp de réfugiés cubains. Je trouve que c'est un enchaînement de séquences vraiment magnifique, et en plus. C'est un point de départ indispensable, en fait, et si tu regardes le film sans avoir ça en tête, il manque la moitié du film, en fait.
Ce truc fondamental, la première pierre que le film pose, justement, avec ces images de l'exode, de l'arrivée, des camps, de la manière dont ils sont traités, en fait, ce qui est marrant, c'est que le film est finalement assez binaire, puisqu'il te montre plus ou moins deux cheminements différents. C'est-à-dire que par rapport à la situation politique et à la manière dont l'État américain traite ses réfugiés, et par rapport surtout à la vie qu'il leur propose, tu vois, c'est pas le rêve américain, hein, pour le coup. Ce que le film, pour moi, te dit, c'est qu'il va falloir s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise manière dans Scarface, tu vois. C'est pas si... Je dis que c'est binaire, mais je veux dire, il n'y a pas cette binarité narrative-là, tu vois. C'est-à-dire que c'est soit, d'un côté, tu vas faire partie des gens qui vont plus ou moins se soumettre à ce qu'on leur demande, c'est-à-dire agir comme des bons réfugiés qui arrivent, qui trouveraient un boulot de merde et puis qui se satisferaient de ça. Ou alors, tu vas avoir l'option Tony Montana, qui va être celle de prendre le maximum de choses, quitte à vivre à 2000 à l'heure de manière totalement immorale, en faisant des choses innommables, mais par contre tu vas vraiment vivre, tu vois. Et c'est vraiment ça le truc de Scarface, et c'est là où est toute la dissonance avec la vie des gens sur le film. Parce que moi, j'ai envie de te dire, tu sais d'où vient la culture hip-hop, on le sait tous. On sait, je parle de la culture hip-hop originelle, hein, et évidemment qu'aujourd'hui ça veut plus dire la même chose, mais en tout cas, ça reste quand même une culture qui est portée par des gens qui sont majoritairement afro-américains, qui sont majoritairement issus d'environnements difficiles et qui sont victimes de la ségrégation raciale et sociétale. Donc, j'ai envie de te dire que ils ont parfaitement compris le message du film, et évidemment qu'ils se retrouvent dans ce personnage-là, en fait. Puisque tu leur colles un personnage qui est, à l'origine en tout cas, complètement oppressé politiquement, tu vois, je veux dire, pour le coup, qui est un réfugié qui est oppressé politiquement des deux côtés, en plus, hein, et qui va devoir, de la manière la plus flamboyante, avec le plus de panache possible, choper les opportunités qu'on lui donne. Et quitte à... Ouais, quitte à... Tu vois, c'est un peu le message, c'est... ok, ma vie, c'est de la merde, je vais faire des choses horribles, mais au moins, je vais vivre à fond. Et je pense que c'est là qu'il y a la dissonance qu'on peut trouver là-dedans. C'est-à-dire que on peut pas dire aux gens, vous n'avez pas compris le film parce que c'est un con, parce que ça peut pas être une icône. Bah si, ça peut en être une pour ces gens-là, en fait. C'est juste que, tu vois, d'un certain point de vue un peu privilégié qu'on peut avoir en regardant ça un petit peu de haut, tu peux te dire, ils ont pas compris, nan, nan. Mais non, parce que les gens qui sont concernés, qui voient un espèce de mimétisme dans leur situation et celle du personnage du film, donc qui sont un petit peu à l'origine de la culture hip-hop, évidemment qu'ils vont ériger ce mec-là en icône, parce que ce film-là, c'est normal qu'il leur parle, tu vois. C'est là où, pour moi, elle est toute l'incompréhension, quoi, du film. C'est-à-dire qu'ils ont compris le film. Je pense qu'ils l'ont compris peut-être mieux que beaucoup de podcasters qui tentent de donner des leçons depuis, tu vois. Moi, je le vois un peu comme ça, en fait.
Ouais, non, bah, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai envie d'ajouter que ils l'ont compris, mais y compris dans sa dimension tragique et de ce qu'il peut avoir de moral, en fait. Parce que justement, c'est là où, à la fois, effectivement, je pense que le film n'est pas clair pour tout le monde et la perception que beaucoup ont du film, enfin, la perception n'est pas claire. C'est que le film, à aucun moment, met Tony Montana sur un piédestal, en fait. Enfin, c'est que on le voit dans sa... C'est un vrai Rise and Fall. C'est l'archétype du template du Rise and Fall avec tout ce qu'il y a de... Tout ce qu'il peut y avoir de pathétique dans la chute, quoi. Et même, même dans la montée, en plus.
Même dans l'apogée, hein. Extrêmement pathétiques. On va pas refaire l'histoire du film, ce qui se passe avec Manny, sa sœur, tout ça. Et même dans la scène finale, en fait, il y a quelque chose de pathétique jusqu'au bout. Tu vois ? Ouais. Je veux dire, moi, je perçois pas bien l'héroïsme dans ce mec coqué jusqu'à l'os, tu vois, qui va mourir, qui le sait, et qui va essayer de faire ça, encore une fois, de manière flamboyante, comme tout ce qu'il a fait jusqu'ici, quoi. Tu vois ?
Ouais.
Et dire partir de cette manière-là, quoi. Finalement, c'est complètement en accord avec tout ce que le film t'a montré dans son parcours avant. Donc, et la manière dont il se comporte avec sa femme, évidemment que les gens qui considèrent que c'est un petit peu une icône, pas un modèle de réussite, mais je dirais plutôt un modèle de panache, évidemment que les gens, ils ont compris ça. Ils le voient, ça, tu vois. Mais faut pas oublier que c'est ça se résume à vivre ou mourir, en fait, tu vois, c'est juste ça, quoi. Donc moi je comprends qu'on puisse avoir ce discours là quand on est soi-même, on va dire, issu d'un milieu dans lequel on n'a pas la chance de pouvoir se développer comme les autres pourraient, quoi, tu vois. Donc qu'une certaine communauté artistique ou une certaine minorité ethnique même, puisque comme on l'a dit, le hip-hop, ça vient essentiellement des Afro-Américains, puisse se reconnaître là-dedans et puisse y voir quelque chose d'encourageant à avoir un personnage qui s'affranchirait de toutes les limites morales pour vivre un peu avec panache et mourir très jeune. Bon, c'est quelque chose que je peux totalement comprendre, en fait.
Ouais, complètement, ouais. Et comme tu disais, la dimension chute, elle est inclue dans les références. Enfin, vivre vite et chuter, elle est inclue dans les références et dans l'iconisation du personnage qui peut être faite dans la culture hip-hop ou dans des choses comme ça, quoi.
Bien sûr, c'est quelque chose qui est complètement en raccord avec ce qu'est le hip-hop, je pense, de manière originelle, quoi. Tu vois, je veux dire. La promotion de certaines choses et tout, c'est pas pour jouer à Rambo, hein, tu vois. C'est juste de profiter du maximum de choses, quitte à parfois tomber dans l'immoralité. Ça fait partie du jeu, tu vois.
Ce que je trouve marrant, c'est que quand on y réfléchit, Scarface a été un espèce de template aussi pour GTA, notamment.
Ouais, pour Vice City, ouais.
Vice City, ouais. Et pour le coup, alors je suis pas allé au bout de Vice City parce que ça me fatigue. Mais je pense que ce genre de... Enfin, moi, ma vision de ça, quand même, pour le coup, c'est que justement, du fait qu'on sorte d'une vision très artistique pour sortir des éléments et les exploiter dans un but, dans le cadre d'un jeu, je pense que justement, ça contribue à brouiller le message et à pas trop comprendre quelle était la vision du film au départ, quoi.
C'est sûr qu'après, tu peux le transformer, on va dire, un peu au premier degré, en quelque chose de jouissif comme ça, et c'est pas spécifiquement le but. Mais après, moi, je pense quand même que le film, il a un côté assez jouissif, tu vois. Je veux dire, que ça soit via la caméra de Palma, principalement via la caméra de Palma et par son esthétique, et par même la bande-son, tu vois. Il y a Push It to the Limit au milieu, ça veut tout dire, quoi. mais dans le sens où, bon, voilà, il y a quelque chose de jouissif dans cette ascension-là, et c'est normal, tu vois. C'est quand même normal. C'est un personnage qui passe du tout au tout en l'espace de très peu de temps, quoi. Hein? Donc, ouais. Moi, je pense quand même que ça contribue à la réussite du film d'en faire quelque chose d'un peu jouissif. Hein? C'est pas uniquement un film qui regarderait Tony Montana de travers en disant ah, tu fais que de la merde et ça n'a aucun sens. Non, je pense pas. Tu vois, il y a des moments où le film est clairement à côté de lui et qu'il participe à son espèce d'iconisation, à rendre tout ça flamboyant. Et ça contribue beaucoup à sa réussite. Moi, je trouve ça normal, quoi.
Ouais. Bah, surtout qu'il flingue beaucoup de gens, mais c'est pas comme s'il faisait des tueries de masse dans la rue sur des gens qui n'ont rien à voir avec ça, quoi.
Non, voilà.
Enfin, c'est un peu le truc de The Wire, quand il t'explique tout le temps, ouais, mais bon, en fait, c'est un jeu, quoi.
Ouais, bien sûr.
Alors bon, évidemment, c'est un jeu où les gens meurent. On peut ne pas être d'accord avec ça.
Alors oui, mais... bon, ça peut, ouais, il peut y avoir des dommages collatéraux. Hein. D'ailleurs, le film le traite un peu de manière maladroite à un moment donné quand même. Hein. C'est quand il y a justement cette fameuse histoire avec le gamin dans la voiture où tout d'un coup, t'as Tony Montana qui se trouve une âme de chevalier blanc tu vois, ouais. Qui protège un peu la veuve et l'orphelin. Bon, ce qui est toujours amené un peu de manière maladroite, c'est toujours la seule réserve narrative que j'ai eu sur le film, je trouve. Après, ça peut se comprendre, tu vois. Je trouve juste pas ça toujours très cohérent avec son ascension à ce moment-là. Mais
tu sais, c'est pas. Moi, je trouve pas ça si incohérent parce qu'en fait, t'as aussi tout un discours qui peut s'accompagner de ces postures-là. Et puis ça reste des postures aussi. Enfin, c'est-à-dire. Mm-hmm. Mais c'est vrai que quand tu te penches un peu sur l'histoire des mafias, notamment. Et quand tu vois de quel massacre ces mecs-là sont capables, quand tu regardes ce qui s'est passé en Italie, comment les règlements de compte, c'était, ça incluait des familles entières, tu dis ouais, bon, pas sûr.
Pas sûr.
Après, ça serait passé comme ça avec un
vrai Tony Montana. Il y a toujours une dissonance cognitive entre l'image un peu chevaleresque qu'on peut avoir de ça et ce qui se passe vraiment, on va dire, un peu plus dans l'ombre, quoi.
Ouais.
Mais après, il y a aussi une vision hollywoodienne du truc, hein, évidemment. Même si De Palma, c'est pas le type qui rentrait le plus dans le moule hollywoodien pour le coup. Mais, mais voilà, moi, en tout cas, pour terminer là-dessus, moi, je trouve que c'est un film qui est très réussi et qui ne vieillit pas beaucoup, en fait. Moi, je trouve que le fait d'être ancré à ce point-là dans son époque, du coup, ça lui donne vraiment une patine inégalable, quoi. Il est vraiment. En fait, il est vulgairement magnifique, quoi. Il y a vraiment des trucs. Non, mais voilà, je pense que tout est vraiment réussi. Puis il y a un soin qui est apporté au niveau de la vulgarité, justement, des costumes, qui est assez incroyable. Donc,
ouais, complètement.
Puis Al Pacino, je veux dire, est-ce que ça vaut la peine de le redire? Mais bon, je pense que c'est un de ses sommets absolus, quoi.
Alors, c'est un de ses sommets d'outrance absolu, en tout cas.
Oui.
Après, faut savoir si on est plus Al Pacino. Al Pacino Hamlet ou Al Pacino Tony Montana, quoi. Il y a deux écoles, mais on est plutôt Serpico ou Tony Montana, mais c'est sûr. Après, oui, il y a quand même des trucs maladroits. Je pense que si le film était refait maintenant, il y aurait certaines choses qui seraient un peu différentes. Je pense pas qu'on aurait des Cubains qui parlent anglais entre eux, par exemple.
Tu sais.
Avec un accent. Ça fait partie des petits trucs qui ont quand même mal vieilli, mais. En fait, je crois que Al Pacino dit genre deux mots d'espagnol dans tout le film. Ce qui est quand même plutôt, plutôt étonnant pour un émigré cubain.
Il dit cogno plusieurs fois.
Ouais. En tout cas, bon, moi je suis d'accord avec toi, c'est un film que je trouve assez extraordinaire. J'ai vraiment pris plaisir à le revoir. Je trouve que, effectivement, quand tu vois le film de manière un peu apaisée, quand tu vois le film un peu sérieusement, tu vois quand même tout de suite de quoi il s'agit et tu comprends à la fois la dimension tragique et la dimension. Finalement, il y a quand même une forme de jugement malgré tout, mais c'est pas non plus le cœur du sujet, quoi.
Non.
Et après, j'ai envie de dire, pas plus, pas moins que dans Breaking Bad ou dans n'importe quel Resident Evil du genre, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, moi, par exemple, je vois beaucoup plus de choses, on va dire, problématiques dans Breaking Bad que dans Scarface, vraiment, quoi. Tu vois, dans l'utilisation du personnage, pour le coup, j'aurais plus tendance à... Même si la base est un petit peu la même, c'est-à-dire le personnage qui a vraiment plus rien et qui a pas le choix, voilà, je veux dire, je comprendrais plus la situation de... Putain, on en est à comprendre... est-ce que je condamne les violences? Oui. Mais... Mais j'aurais plus tendance à comprendre la situation de Tony Montana que celle de Walter White, tu vois. Ouais, s'il fallait les mettre sur une balance. Et voilà, en tout cas, je la trouve...
Est-ce que tu votes à gauche?
Ouais, peut-être, tu vois, c'est un peu plus ça. Mais non, je, enfin, on est d'accord sur la vision générale du truc. Ouais. Quoi.
Et moi, j'ai une question pour toi. La vraie question, c'est, tu préfères l'impasse ou Scarface ?
Ah, oh, c'est vachement dur ça.
C'est ça qu'on veut savoir.
Après, moi, je trouve qu'en tant qu'objet filmique, je te dirais l'impasse. Mmh. Voilà, en tant que, mais vraiment, tu vois, cinématographiquement parlant, parce que l'impasse, je trouve que c'est le meilleur. C'est probablement à froid le meilleur de Palma. Enfin, à mon sens, hein, je le trouve quasiment parfait. Mmh. Après, j'ai quand même vachement plus d'attachement pour Scarface, quoi. Mmh. Je te cache pas qu'il y a quelque chose dans ce film-là, tu vois, de vraiment de générationnel, quoi. Ouais, ouais. Genre de truc extrêmement marquant dans sa vulgarité, dans son esthétique, dans son personnage quand même. Voilà, moi je suis très attaché à Scarface quand même, quoi.
Ça c'est l'effet Moroder.
Ouais, je pense clairement ça joue. Tu vois, t'as pas Push It to the Limit, t'as pas le morceau d'intro de Giorgio Moroder dans l'impasse, tu vois. Bah voilà, il y a des choses comme ça. Après, l'impasse qui est aussi une référence, hein, pour pas mal de gens. Hein. Bah, d'ailleurs, il y a une bonne partie de Palma qui est une référence pour la culture hip-hop, finalement. L'impasse, c'est aussi un truc qui est souvent cité, tu vois, par rapport à cette espèce de... d'être plus ou moins un anti-Scarface, pour le coup, quoi. Parce que là, t'as le personnage qui tente d'atteindre la rédemption et qui peut jamais l'avoir, ce qui est assez marrant, hein. Il y a un effet miroir entre les deux films.
Oui, mais, bah... De toute façon, c'est un peu... On le dit souvent que Scarface... que l'impasse, c'est un peu la... l'espèce de suite what if de Scarface, quoi.
Ouais, bien sûr.
En gros, si Tony Montana n'était pas mort à la fin de Scarface...
Et qu'il avait tenté de devenir un meilleur, tu vois. Qu'est-ce qui se serait passé, quoi.
Mais je trouve que, de toute façon, c'est deux films qui se répondent super bien.
Ouais, bien sûr.
Et voilà. Bon, on pourrait... Je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup parlé du film, mais en même temps, je sais pas, en fait, je pense que c'est un film... Le film est sorti il y a 40 ans maintenant, je pense que... Vous avez peut-être très largement entendu parler, et puis si vous voulez... Enfin, pour le coup, je dis ça sans faire le malin, mais vraiment, je pense qu'il y a plein de podcasts qui font des analyses extensives du film, si vous voulez connaître tous les trivia, tous les tenants et aboutissants, tout savoir sur le casting, vous aurez ce qu'il faut ailleurs.
Ouais, et puis c'était pas trop le sujet de ici.
Non, mais juste, si vous l'avez jamais vu, vraiment, voyez-le, enfin, je trouve que c'est un immense film, quoi.
En tout cas, sortez de... Moi, j'aurais quand même tendance à dire, sortez un peu de ce qu'on dit du film aujourd'hui, tu vois. Il y a toujours des choses un peu étranges qu'on dit sur ce film-là. Voilà, sortez de ces idées reçues-là, qui sont quand même, à mon sens, totalement à côté de la plaque.
Voilà, je pense qu'on les dit un peu moins maintenant.
Peut-être, mais moi j'entends encore quand même souvent ces points de vue bizarres.
Oui,
tu vois, quand on a tendance à jeter le film sous les rails en disant que finalement c'est juste une énorme pub pour, tu vois, pour la criminalité. Bon, qui était déjà un truc qui se disait à la sortie du film, hein, c'est pas nouveau. Hein.
Oui, parce que le film a pas eu un bon écho.
Non, il n'avait pas été bien reçu, il a frôlé le rating d'art. Enfin, ouais. Je crois qu'il a le record des fucks dit dans un film à sa sortie. Enfin, ouais, il y a plein de trucs comme ça. Il y a la municipalité de Miami qui était pas contente parce que le film donnait une très mauvaise image des réfugiés cubains et de la ville en elle-même. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un film qui évidemment a toujours senti un peu le soufre, quoi, mais voilà, faut sortir, je pense, vraiment des idées reçues et ne pas le voir comme tu vois, de manière un peu condescendante, comme étant ce film que les gens n'ont pas compris, puisque c'est faux. Je pense que voilà, faut prendre un peu de recul et se dire que peut-être justement les gens ont compris ce qu'ils voulaient dire, quoi. Et pas toi. Voilà, c'est terrible, mais
après ça reste la compréhension et l'interprétation d'un film, ça reste toujours variable d'une personne.
Non, mais je veux dire, dans le sens où cette vision de cette interprétation là du personnage, pour moi, elle est valide, quoi. Tu vois, il y a pas de voilà. Mais les gens ne sont pas passés à côté du film, loin de là.
Mais ce qui est intéressant, c'est que aussi tu l'as dit tout à l'heure, en fait, tu parlais de la culture hip-hop telle qu'elle a émergé. Et je trouve que c'est un point important aussi, c'est que la culture hip-hop, elle s'est quand même largement transformée depuis l'époque où Scarface était une référence. Et
Non, mais tu vois, aujourd'hui, la culture hip-hop, elle s'est un petit peu gentrifiée aussi, tu vois.
Elle s'est mélangée, elle s'est diluée, enfin, elle est plus du tout la même, quoi. Elle est plus du tout aussi hardcore.
Disons que la culture hip-hop, pour moi, je suis un peu extrême là-dessus, mais j'ai tendance à penser que c'est pas fait pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ?
Non.
Moi, j'ai tendance à penser que le hip-hop, il trouvait son essence vraiment dans... dans les raisons qui l'ont amené à être créé et dans le discours qu'il tenait depuis le début, tu vois. Et il s'adresse uniquement à ces gens-là parce que c'est une musique pour eux, par eux, et tu vois. Et je sais que certaines personnes peuvent pas comprendre aujourd'hui, moi, quand je vois des rappeurs un peu bien sous tout rapport, tu vois, pour cadre supérieur. Moi, je trouve ça, moi, ça me fait face palmer, quoi. Je veux dire, il faut l'apprendre, mais je suis désolé, quoi. Tout ça, c'est de la faute d'Orelsan, tu vois, on n'y peut rien. Mais moi, j'ai tendance à penser que, ouais, en fait, c'est juste pas pour vous, cette musique. Elle n'est pas faite pour vous, acceptez-le, c'est pas grave. Tu vois ? Non, non, mais vraiment, vraiment, je pense que cette musique, elle n'est pas faite pour vous, elle ne s'adresse pas à vous. Et voilà, ça ne sert à rien d'essayer de l'adapter, elle n'est pas faite pour ça. Et voilà, moi je suis un peu étonné de... Et aujourd'hui, tu vois, même dans la culture hip-hop, on a plus ces références-là et tout ça, et on aurait peut-être un peu plus de mal à comprendre pourquoi les gens d'avant avaient ces références-là, mais c'est parce que cette culture-là, elle s'est quand même montée sur un certain état d'esprit qu'on a peut-être marketé, commercialisé, et c'était pas fait pour ça, quoi. Voilà. Donc, que les gens qui soient vraiment issus de cette culture-là, telle qu'à mon sens, elle était, elle devrait être... continue de voir en Tony Montana une icône, ben moi j'ai envie de te dire tant mieux, parce que c'est un peu l'esprit du truc, quoi, tu vois. C'est la même flamboyance, finalement. C'est la même flamboyance, c'est la promotion des mêmes choses dans un contexte que tu peux pas maîtriser en le regardant, on va dire, vraiment de notre point de vue, tu vois. Donc je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité là-dessus, et de se dire que ces gens-là ont compris, en fait. Ces gens-là ont compris le message qui s'adressait à eux, mais c'est pas à nous de décider si jamais c'est un beau message ou pas, tu vois. Voilà, je pense pas qu'on ait le vécu ni la mentalité, et tu vois, on va pas se plaindre, qui soit nécessaire à prendre le message comme ça.
Bon, bah écoute, ça me va, je suis en phase avec toi. La question va être vite répondue sur est-ce qu'on garde la statue ou pas.
Ah oui, bah moi je la garde, moi je la recloue même. Voilà, je la repeins, je la remets en état tous les deux jours, enfin tu vois, je la soigne celle-là, tu vois.
Ouais, non, on est d'accord. Et ceci dit, elle a besoin, hein, parce qu'elle est quand même régulièrement attaquée pour le coup. Hein. Elle est régulièrement corrodée.
Et puis en plus, tu sais, on parle de remake et tout. Je pense vraiment que c'est un film qui se permettait des choses qu'il pourrait plus se permettre, et que vraiment, le remake oublié, quoi.
C'est vrai, on en est où de cette histoire de remake?
Je sais pas, mais il perdrait toute sa force, en fait, tu vois.
C'était qui déjà qui était attaché? C'était pas...
Il y a eu plein de monde, alors je sais plus, tu vois, il y a eu une tonne de gens.
Il y a eu des noms qui m'avaient fait très peur. Hein.
Même Al Pacino lui-même disait que ça servait pas à grand-chose de faire un remake, quoi, parce que...
Bah.
Parce qu'il a raison, sans tomber dans le « on peut plus rien dire », bien sûr, mais je veux dire, pour le coup, bon, bah, c'est vrai que ce film-là, à notre époque, quel sens il aurait, je vois pas, quoi, tu vois.
Bah, j'ai envie de dire, des remakes, il y en a eu quelque part, en fait, parce que c'est juste le...
Oui, non, mais voilà, c'est juste...
Le simple fait de refaire un autre film, un film de mafieux, un Rise and Fall de mafia, dans l'époque dans laquelle ça sort, c'est un remake de Scarface, quoi, finalement. Enfin, je veux dire...
Ouais, je pense, ouais. Puis bon, des Rise and Fall de gangsters, on en a quand même... Alors, un peu moins maintenant, c'est vrai, mais on a quand même eu un paquet remaké spécifiquement Scarface aujourd'hui, je sais pas, tu vois. Après, évidemment qu'il y a eu d'autres crises politiques qui pourraient être traitées par cet angle-là, pourquoi pas. Mais bon, je veux dire, est-ce qu'il faut vraiment le brander Scarface? Je suis pas persuadé, quoi. Puis je veux dire, je pense vraiment que le film y tire toute sa force de son contexte et de ce qu'il peut encore se permettre à ce moment-là, ce qui aujourd'hui, peut-être à raison, on pourrait plus se permettre, mais il n'empêche que du coup, c'est vraiment plus la peine de le faire, quoi. Puis je veux dire, bon, attends, on parle quand même d'un film réalisé par Brian De Palma, écrit par Oliver Stone, avec Al Pacino en feu. Est-ce que t'as vraiment envie d'aller jouer sur ce terrain-là, quoi? Tu vois, je suis pas sûr que ça rende service à grand monde, quoi.
Moi, je le ferais pas, en tout cas. Hein.
Non, moi, j'irais pas m'attaquer à ce genre de truc. Bon. D'ailleurs, est-ce que tu savais que la scène finale était en partie co-réalisée par Steven Spielberg pour rester dans notre... Pour rester dans notre carcan. Ce qui est vrai, hein, il a participé un petit peu à la fusée.
Alors, non, mais si on ouvre la tiroir de, le tiroir à trivia, on va plus s'en sortir.
Ah, non, mais je sais, c'était pour rappeler un autre public. Tu sais, genre, que... je donne un biscuit Spielberg pour. Voilà. Normal.
Est-ce que tu savais que le. La... Non, en plus, je ne savais pas pour Spielberg. Pour le coup, c'est pas écrit sur Wikipédia, du coup je ne savais pas. Non, est-ce que tu savais que, sauf erreur de ma part, parce que ça remonte un peu là, mais il y a la personne qui a été tuée par Phil Spector qui fait une petite apparition dans le film, une apparition de figurante dans ce film-là.
D'accord. Bah, écoute,
la jeune femme qui a été tuée par Phil Spector.
D'accord.
Et qui lui a valu de passer la fin de sa vie en prison. Bref.
Bon, on pourra mettre cette anecdote dans le livre.
Ouais.
Quand il sortira.
Ouais. Il te faut grandir encore pour savoir. Il te faut grandir encore pour savoir.
Est-ce qu'il serait pas temps de faire des rocos si t'en as une affaire?
Bah écoute, j'en ai une affaire. J'ai essayé de chercher un film de gangster. Alors c'est pas pour le coup un Rise and Fall, en tout cas pas tout à fait dans la même mesure que Scarface, mais un film de gangster que j'aime vraiment pas mal, c'est Animal Kingdom.
Ah,
c'est
ouais.
Un film australien qui est réalisé par David Michaud. Voilà,
ouais.
qui est australien. non, mais je le dis. Et voilà, qui je trouve un film de gangster pour le coup, bah. Je vais pas dire que c'est Scarface de son époque, c'est pas du tout le cas, mais en tout cas, qu'à cette espèce d'ancrage culturel déjà, parce que c'est quand même un vrai film australien qui s'inspire du film de Bush australien, tu vois, ouais. de la grande époque, en tout cas dans la manière de montrer les environnements et même les interactions entre les personnages, qui est quand même un truc un peu particulier, et qu'à cet ancrage dans l'époque, quoi. Voilà, qui traite vraiment des sujets réels. D'ailleurs, pour avoir vu quelques trucs sur la criminalité et comment elle se développe en Australie, le film me paraît étonnamment pertinent de ce point de vue-là, quoi. Donc voilà, avec notamment, et je crois qu'il y a Ben Mendelsohn, alors qu'un de ses, un de ses meilleurs rôles, qui est vachement meilleur que dans Rogue One, si vous voulez mon avis. Il y a Joel Edgerton aussi, enfin voilà, il y a pas mal de monde, et c'est vraiment super. Je sais qu'il y a une série qui en était tirée que j'ai jamais vue, mais en tout cas, je trouve le film vraiment, vraiment, vraiment super. Et c'est pas le truc auquel on pense, c'est pas la plus grande évidence quand on parle de films de gangsters, on va dire contemporains, mais moi je trouve vraiment que c'est un des plus réussis, quoi. Donc voilà, ça s'appelle Animal Kingdom. En gros, c'est l'histoire d'un gamin qui se retrouve en fait parachuté à la suite d'un décès dans la famille de sa grand-mère qu'il ne connaissait pas très bien et qui rencontre, on va dire, plus ou moins ses oncles qui sont pas forcément des gens bien sous tout rapport, quoi, et qui doit un petit peu s'adapter. Je crois que ça se passe à Melbourne. Et voilà, et c'est vraiment 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 super, quoi. Donc je recommanderais jamais assez Animal Kingdom. Et d'ailleurs, la filmo de David Michaud en général, tu peux y aller sans trop de crainte.
Ça te fait pas mi-chaud mi-froid, quoi. C'est vraiment bien.
Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué.
Non, bonne reco, je suis d'accord, c'est un film que j'aime vraiment bien aussi, ouais. Je l'avais vu, je l'avais découvert au ciné,
ouais.
Et j'aimerais bien le revoir, en fait, ça fait longtemps que je l'ai pas revu. C'est vraiment un très bon film, et Ben Mendelsohn, je trouve impeccable à chaque fois, hein, pour le coup. Hein.
Quand il joue le pire des enfoirés, il est très très bon, malheureusement, quoi.
Ouais, mais il arrive aussi des fois. Je l'avais vu dans une espèce de série adaptée de Stephen King que j'avais pas trouvé génial, mais j'ai oublié le titre. Je crois que c'est je sais plus comment ça s'appelle. Et où il joue le père éploré pour le coup, et il le fait assez bien aussi, je trouve.
Il y a une série en tout cas, une exclu Netflix sur lequel moi je l'avais découvert en tout cas, qui s'appelait Bloodlines. Je sais pas si ça vous parle. Bon, que t'es une sombre histoire de meurtre sur fond d'héritage, etc. Ouais. Avec Ben Mendelsohn et comment il s'appelle l'acteur de Friday Night Lights là, Kyle Chandler, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'était, ça, je crois que ça a duré 2 saisons et c'était vraiment vraiment très bien aussi, quoi.
Effectivement. J'ai vu ça aussi.
Ouais.
Écoute, bien joué pour la roco. Moi, je vais faire une roco peut-être que vous connaissez déjà. Enfin, il y a de fortes chances, mais. J'étais en train de réfléchir, c'est quoi mon film de mafia préféré, en fin de compte. Même si Scarface n'est pas tant que ça un film de mafia, enfin pas au sens parrain du terme, mais bref. Mais je crois que mon film de mafia préféré, c'est une duologie, c'est le Élection 1 et Élection 2 de Genito.
Ouais, bien sûr.
Que je trouve quand même particulièrement flamboyant et splendide comme film. Et là, pour le coup, c'est plus... Pour le coup, c'est plus le côté terre-à-terre des triades et de ce que c'est la vie, enfin plutôt la politique, les coups bas et les embrouilles et les alliances qui changent et la violence dans les triades. Quoi.
C'est marrant parce qu'il a ce côté assez documenté quand même, hein, ouais. parce que l'organisation des triades et tout ça dans l'élection, a priori... D'après les témoins et les gens qui ont commenté le film et qui étaient un peu dans le milieu, étaient très très proches de la réalité. Mais il a aussi, avec Scarface en commun, il a ce côté méchamment tragique quand même. Notamment oui. dans sa deuxième partie.
Dans ses effusions de violence aussi.
Ouais, bien sûr. Puis le parcours du personnage de Louis Kou, du coup. Ouais. On peut pas faire beaucoup plus tragique que ça, je pense.
Effectivement, mais non, et effectivement, il y a un double documentaire qui est passé sur les triades sur Arte il y a pas longtemps, et en le regardant, tu dis ouais, élection. D'ailleurs, c'est d'autant plus drôle que non seulement le film représente bien ce que sont les triades, mais en fait, les triades sont quand même ultra impliquées dans le cinéma hongkongais.
En plus.
Et du coup, le documentaire met bien ça en avant aussi.
D'où l'impossibilité de Jonito de faire élection 3, parce que c'est une question qu'on lui pose énormément depuis des années. C'est d'être pris en fait en tenaille entre les triades
et le gouvernement
chinois, pour le coup, qui verrait d'un ouais. assez mauvais œil la manière dont il est notamment traité dans élection 2. Ouais. Donc le fait de sortir un troisième volet, c'est quelque chose que tout le monde attend, mais qui n'arrivera pas. Puis je pense que Jonito a autre chose à foutre hein, maintenant, clairement.
Que de
faire élection 3.
You have stolen my dreams and my childhood with your empire. Words.
Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein.
Je pense qu'on a fait le tour, on a rajouté une statue. Voilà, je sais pas s'il faut faire le bilan, mais je sais pas s'il y a d'autres statues qui sont debout. Bah si, il doit y avoir Robocop. Est-ce qu'on avait pas laissé Indiana Jones finalement?
Je sais plus. Mais
on l'avait pas laissé en se disant, ouais, c'est pas pire.
Si, on avait dû le laisser quand même, parce que ça reste quand même. Mais j'ai le souvenir que sur Indiana Jones, tu sais, j'étais arrivé super énervé, puis je sais pas, t'as tout désamorcé en me disant « Ouais, mais quand même, c'est bien. »
La même chose, hein. C'était, mais tu sais que je m'étais auto-désamorcé. Hein. Ou alors c'est parce que j'avais peur de Fabien Gardon, tu vois.
Ouais, je pense que c'est
plutôt
ça.
Me regarder du coin de l'œil, quelque part, au fond de la pièce. Ça devait être pour ça. Mais voilà, bah écoute, une de plus, et puis est-ce qu'on peut dévoiler la suite? Parce que là, j'imagine qu'on va s'y remettre de manière extrêmement sérieuse, voilà, avant l'année prochaine, on sera là.
Ouais, parlons de la suite, prochain épisode GoldenEye.
Ouais, prochain épisode GoldenEye, ouais. On s'était demandé, on s'était posé la question sur quel James Bond on allait prendre, parce qu'on s'était dit qu'à un moment donné, il fallait bien le traiter, quoi.
Mais de toute façon, James Bond est suffisamment protéiforme pour qu'on puisse traiter plusieurs James Bond.
Ouais, pas de problème. Après, c'est vrai que GoldenEye, en tout cas, pour les gens d'à peu près notre âge, je pense quand même qu'il y a quelque chose avec GoldenEye.
Quelque part, GoldenEye et You Only Live Twice, c'est pas du tout le même délire, quoi. Donc,
non, clairement pas.
On peut tout à fait faire deux fois James Bond, quoi.
Pas de problème. On pourra tout à fait faire Moonraker, si on en... Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Mais en tout cas, ouais, on va partir sur GoldenEye pour la prochaine fois. Et puis, plus ça fait longtemps que je l'ai pas vu... Admettons, on sait jamais. Il trouvera peut-être un peu de grâce à mes yeux, on ne sait pas.
Ce sera l'occasion.
Bon, bah écoute.
Eh bah, merci pour tout. À la prochaine. On te retrouve où, sur X
On me retrouve X sur Twitter. X. Ah oui, on dit X ou Twitter, je sais plus. Toujours. Ouais. Vaguement sur d'autres réseaux qui se sont montés depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Tu vois, depuis la dernière fois qu'on a enregistré, il y a eu un Indiana Jones, 14 réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, tu vois, le temps passe vite. Hein. Le temps passe beaucoup trop vite. mais oui, on me retrouve sur X, un peu sur Threads, vaguement, sur Blue Sky peut-être, sais plus. Enfin voilà, des choses sur lesquelles j'ai pas le temps de m'attarder, donc voilà. Et shitlist majoritairement. Majoritairement en ce moment, voilà. Sinon j'essaye de finir un livre qui devrait pas tarder. J'ai l'impression, tu vois, c'est pareil, je disais ça la dernière fois. Mais, mais ça va pas tarder, on y croit.
Ouais. Bien, bien. Bah, moi,
ça nous donnera l'occasion de faire un épisode peut-être, ce bouquin là.
Bah j'y compte bien, ouais.
Ouais.
J'y compte bien, il y aura des choses à dire.
Ouais, c'est sûr.
Bah moi je suis plus sur Blue Sky que X en ce moment, mais on sait jamais. Je suis pas sur Threads. J'ai pas mis les pieds dessus encore.
Pas encore été jusque. Pourtant c'est rigolo Threads.
Ah ouais. Bon bah je vais aller voir. Alors.
Bah c'est la malveillance de Twitter couplée à la bêtise congénitale d'Instagram.
Ah, tu me l'as bien vendu là.
Bah oui, oui, parce que t'as tous les débiles d'Instagram. Avant ils prenaient juste des photos, donc ils nous cassaient pas trop les couilles. Mais maintenant qu'on leur laisse le droit de parler, t'imagines bien que c'est une catastrophe. Donc non, c'est tous les gens qui faisaient du développement, du light développement personnel en se montrant à la salle de sport là. Bah du coup maintenant tu leur laisses le droit de parler. Bah c'est un enfer. C'est un enfer. Mais c'est rigolo.
Bon bah écoute, j'y vais de ce pas.
Allez. Bon, eh ben on se retrouve assez vite pour GoldenEye. En attendant, vous pouvez évidemment, même si vous ne l'avez pas fait depuis un an, nous laisser des bonnes notes sur Apple Podcast, sur Spotify, sur ce que vous voulez. N'hésitez pas quand même à venir suivre le compte S'agirait de grandir sur X ou nos comptes perso. Hein.
Ouais, exactement.
Bien sûr. Et puis on se retrouve.
Lui, sur X.
Assez vite. On se retrouve assez vite. C'est une promesse.
C'est on s'y engage comme campagne. À chaque fois.
À très bientôt. Salut.
À bientôt. Ciao.